Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un auteur un peu inconnu en France. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent.
Moi, je ne le connaissais pas.
Non, voilà.
Moi, Dominique. Moi non plus.
Voilà. Et moi, c'est un peu par hasard que je l'ai découvert à la librairie. Alors, il s'agit de Dezo Costolani. Alors, je ne sais pas du tout si je prononce correctement.
Costolani, ouais.
Voilà. Donc, c'est un écrivain hongrois. Et donc, toutes les nouvelles qu'on va vous lire aujourd'hui, elles sont extraites du recueil de nouvelles intitulé « Le traducteur kleptomane et autres histoires ». Donc, un livre qui est paru en 1933. Alors... Dans ce choix de nouvelles, l'auteur met en scène donc son propre double, Cornel Esty, avec un humour pince sans rire teinté d'un certain pessimisme. Donc il raconte le Budapest des années 20 et plus généralement le monde qui l'entoure. Donc on retrouve le ton savoureux du grand écrivain hongrois dans ses courtes histoires fantaisistes, faites de dérision, d'absurde et d'un regard déroutant sur le réel.
Tout à fait, on est bien dans le monde de la nouvelle, hein, au niveau du format et tout, quand on en a lu certaines. Mmh. On est bien dans notre sujet.
Donc la première nouvelle qu'on va vous lire, c'est celle qui porte le titre du livre, donc qui s'appelle « Le traducteur kleptomane ».
Nous parlions de poètes et d'écrivains, d'anciens amis qui avaient commencé la route avec nous, jadis. Ils étaient ensuite restés en arrière et leurs traces s'étaient perdues. De temps en temps, nous lancions en l'air un nom. Qui se souvient encore de... Nous hochions la tête et nos lèvres esquissaient un vague sourire. Dans le miroir de nos yeux apparaissait un visage que nous avions cru oublier, une carrière et une vie brisée. « Qui en a entendu parler ? Vit-il encore ?» Pour toute réponse, il n'y avait que le silence. Dans ce silence, la couronne desséchée de sa gloire craquelait comme les feuilles mortes dans un cimetière. Nous nous taisions. Nous nous taisions toujours depuis de longues minutes, quand voilà que quelqu'un prononce le nom de Gallus. « Le pauvre, » dit Cornel Esty. « Moi, je l'ai encore vu il y a des années. Ça doit faire déjà 7 ou 8 ans, et dans des conditions très tristes. » Il lui était alors arrivé à propos d'un roman policier, une histoire qui, elle-même en est un, le plus palpitant et le plus douloureux que j'ai jamais vécu. Ainsi donc, vous l'avez connu, ne serait-ce qu'un peu. C'était un garçon de talent brillant, plein d'intuition, et qui plus est consciencieux et cultivé. Il parlait plusieurs langues. Il savait si bien l'anglais que le prince de Galles lui-même, dit-on, aurait pris des leçons auprès de lui. Il avait vécu 4 ans à Cambridge. Mais il avait un défaut fatal. Non, il ne buvait pas. Mais il raflait tout ce qui lui tombait sous la main. Il était voleur comme une pie. Que ce soit une montre de gousset, des pantoufles ou un énorme tuyau de poêle, aucune importance. Il ne se préoccupait pas plus de la valeur de ses larcins que de leur volume et de leur dimension. Il ne voyait même pas le plus souvent leur utilité. Son plaisir consistait simplement à faire ce qu'il ne pouvait pas ne pas faire, voler. Nous, ses amis les plus proches, nous nous efforcions de lui faire entendre raison. Avec affection, nous faisions appel à ses bons sentiments. Nous le réprimandions, nous le menacions. Lui, il était d'accord. Il ne cessait de promettre de lutter contre sa nature. Mais sa raison avait beau se défendre. Sa nature était la plus forte. Sans arrêt, il récidivait. Plus d'une fois, il s'est trouvé confondu et humilié en public par des inconnus. Plus d'une fois, il a été pris sur le fait. Et nous, alors, nous devions déployer d'incroyables efforts pour effacer d'une manière ou d'une autre les conséquences de ses actes. Mais un jour, dans l'express de Vienne, il a soustrait son portefeuille à un négociant morave qui, sur le champ, l'a saisi au collet et, à la station suivante, l'a remis aux gendarmes. On l'a ramené pieds et poings liés à Budapest. De nouveau, nous avons essayé de le sauver. Vous qui êtes écrivain, vous n'êtes pas sans savoir que tout dépend des mots, la valeur d'un poème aussi bien que le sort d'un homme. Nous avons tenté de prouver que c'était un kleptomane et non un voleur. Kleptomane est en général quelqu'un qu'on connaît. Voleur, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le tribunal ne le connaissait pas aussi, l'a-t-il jugé comme voleur et condamné à 2 ans de prison. Après sa libération, par une sombre matinée de décembre, un peu avant Noël, il fait irruption chez moi, affamé et déguenillé. Il tombe à mes genoux. Il me supplie de ne pas l'abandonner, de lui venir en aide, de lui procurer un travail. Qu'il écrive sous son propre nom, il n'en était pas question alors pour quelque temps. Mais il ne savait rien faire d'autre qu'écrire. Je suis donc allé voir un brave éditeur plein d'humanité. Je l'ai recommandé. Et l'éditeur, le lendemain, lui a confié la traduction d'un roman policier anglais. C'était une de ces choses bonnes pour la poubelle dont on a honte de se salir les mains. On ne les lit pas. On les traduit à la rigueur, mais en mettant des gants. Son titre, je m'en souviens encore aujourd'hui, « Le mystérieux château du comte Vitsislav ». Mais quelle importance! J'étais content d'avoir pu faire quelque chose et lui l'était d'avoir du pain et tout heureux, il s'est mis à l'ouvrage. Il a travaillé avec tant de zèle que, sans même attendre le délai fixé, au bout de 3 semaines, il a remis le manuscrit. J'ai été infiniment surpris quand, quelques jours plus tard, l'éditeur m'a fait savoir au téléphone que la traduction de mon protégé était totalement inutilisable et qu'il n'était pas disposé à en donner même un rotin. Je ne comprenais rien. J'ai pris une voiture et je me suis fait conduire chez l'éditeur. Celui-ci, sans un mot, me met en main le manuscrit. Notre ami l'avait joliment dactylographié, avait numéroté les pages et les avait même attachées avec un ruban aux couleurs nationales. Ah, c'était bien de lui tout ça, car je crois l'avoir déjà dit, en ce qui concernait la littérature, c'était quelqu'un de sûr, d'une scrupuleuse minutie. J'ai commencé à lire le texte avec des cris de ravissement. Des phrases claires, des tournures ingénieuses, de spirituelles trouvailles linguistiques se succédaient, dont cette Kaamelott n'était peut-être même pas digne. Ahuri, je demande à l'éditeur ce qu'il avait pu trouver à redire. Il me tend alors l'original anglais, toujours sans un mot. Puis il m'invite à comparer les deux textes. Je me suis plongé dedans. Je suis resté une demi-heure, les yeux tantôt sur le livre, tantôt sur le manuscrit. À la fin, je me suis levé consterné. J'ai déclaré à l'éditeur qu'il avait parfaitement raison. Pourquoi ? N'essayez pas de le deviner, vous vous trompez. Ce n'était pas le texte d'un autre roman qu'il avait glissé dans son manuscrit. C'était vraiment, coulante, pleine d'art et par endroits de verve poétique, la traduction du mystérieux château du comte Vitsislav. Vous vous trompez encore. Il n'y avait pas non plus dans son texte un seul contresens. Après tout, il savait parfaitement et l'anglais et le hongrois. Ne cherchez plus. Vous n'avez encore rien entendu de pareil. C'était autre chose qui clochait. Tout autre chose. Moi-même, je ne m'en suis rendu compte que lentement. Graduellement. Suivez-moi bien. La première phrase de l'original anglais disait ceci. L'antique château rescapé de tant d'orages resplendissait de toutes ses 36 fenêtres. Là-haut, au premier étage, dans la salle de bal, 4 lustres de cristal prodiguaient une orgie de lumière. La traduction hongroise disait. L'antique château rescapé de tant d'orages resplendissait de toutes ses 12 fenêtres. Là-haut, au premier étage, dans la salle de bal, 2 lustres de cristal prodiguaient leur orgie de lumière. J'ai ouvert de grands yeux et j'ai continué ma lecture. À la troisième page, le romancier anglais avait écrit « Avec un sourire ironique, le comte Vitsislav sortit un portefeuille bien bourré et leur jeta la somme demandée, 1500 livres sterling. » L'écrivain hongrois avait traduit comme suit « Avec un sourire ironique, le comte Vitsislav avait sorti un portefeuille et leur jeta la somme demandée, 150 livres sterling. » J'ai été pris d'un soupçon de mauvais augure qui, hélas, dans les minutes suivantes, s'est changé en triste certitude. Plus loin, au bas de la troisième page, je lis dans l'édition anglaise « La comtesse Éléonore était assise dans l'un des angles de la salle de bal, en tenue de soirée. Elle portait ses bijoux de famille anciens. Sur sa tête, un diadème, garni de diamants hérités de sa trisaïeule, épouse d'un prince électeur allemand. Sur sa gorge, d'une blancheur de cygne, un collier de véritables perles aux reflets opalescents. Et quant à ses doigts, ils ne pouvaient presque plus bouger, tant il portait de bagues ornées de brillants, de saphirs et d'émeraudes. Cette description haute en couleurs, je n'ai pas été peu surpris de constater que le manuscrit hongrois la rendait ainsi. La comtesse Éléonore était assise dans un des angles de la salle de bal, en tenue de soirée. Rien de plus. Le diadème garni de diamants, le collier de perles, les bagues ornées de brillants, de saphirs et d'émeraudes, tout cela manquait. Comprenez-vous ce qu'avait fait notre malheureux confrère, cet écrivain si digne pourtant d'un sort meilleur? Il avait tout simplement volé les bijoux de famille de la comtesse Éléonore, comme il avait dépouillé avec une légèreté tout aussi impardonnable le comte Vitsislav, pourtant si sympathique, de ses 1500 livres, ne lui laissant que 150, et soustrait deux des quatre lustres de cristal de la salle de bal, et subtilisé 24 des 36 fenêtres de l'antique château rescapé de tant d'orages. J'étais pris de vertige. Mais ma consternation a été à son comble quand j'ai constaté, tout doute exclu, que la chose, avec un fatal esprit de suite, se retrouvait du début à la fin de son travail. En quelques lieux que sa plume est passée, le traducteur avait causé préjudice au personnage, et ça, à peine connaissance faite et sans égard pour aucun bien, mobilier ou immobilier, il avait porté atteinte au caractère incontestable, quasi sacré, de la propriété privée. Il travaillait de diverses manières. Le plus souvent, les objets de valeur, ni vus ni connus, avaient disparu. De ses tapis, de ses coffres-forts, de cette argenterie destinée à relever le niveau littéraire de l'original anglais, je ne trouvais dans le texte hongrois aucune trace. En d'autres occasions, il en avait chipé une partie seulement, la moitié ou les deux tiers. Quelqu'un faisait-il porter par son domestique 5 valises dans son compartiment de train? Il n'en mentionnait que 2 et passait sournoisement sous silence les 3 autres. Pour moi, en tout cas, ce qui m'a paru le plus accablant, car c'était nettement une preuve de mauvaise foi et de veulerie, c'est qu'il lui arrivait fréquemment d'échanger les métaux nobles et les pierres précieuses contre des matières viles et sans valeur, le platine contre du fer blanc, l'or contre du cuivre, le vrai diamant contre du faux ou contre de la verroterie. J'ai pris congé de l'éditeur l'oreille basse. Par curiosité, je lui ai demandé le manuscrit et l'original anglais. Intrigué par la véritable énigme que posait ce roman policier, j'ai poursuivi mon enquête à la maison et dressé un inventaire exact des objets volés. De 1h de l'après-midi jusqu'à 6h30 du matin, j'ai travaillé sans aucun répit. J'ai fini par établir que dans son égarement, notre confrère, au cours de sa traduction, s'était approprié au détriment de l'original anglais, illégalement et sans y être autorisé, 1 579 251 livres sterling, 177 bagues en or, 947 colliers de perles, 181 montres de gousset, 309 paires de boucles d'oreilles, 435 valises, sans parler des propriétés, forêts et pâturages, châteaux ducaux et baronniaux, et autres menus bricoles, mouchoirs, cure-dents et clochettes, dont l'énumération serait longue et peut-être inutile. Où les avait-il mis, ces biens mobiliers et immobiliers, qui n'existaient tout de même que sur le papier, dans l'empire de l'imagination, et quel était son but en les volant? Un tel examen nous entraînerait plus loin. Aussi n'irais-je pas plus avant. Mais tout ça m'avait convaincu qu'il était toujours l'esclave de sa passion coupable ou de sa maladie, qu'il n'y avait pour lui aucun espoir de guérison et que, de la société des honnêtes gens, il ne méritait pas le soutien. Dans mon indignation morale, je lui ai retiré ma protection. Je l'ai abandonné à son sort. Depuis, je n'en ai plus entendu parler.
Eh ben...
Bah, c'est pas gentil, ça, d'abandonner un kleptomane. C'est une façon d'assumer sa kleptomanie. Hein.
Bah oui, mais c'est moins dangereux, finalement.
Voilà, ce que disait Dominique, oui, sans conséquence.
De façon virtuelle, on va dire.
Voilà. Enfin, c'est assez drôle, je trouve, comme histoire, parce que c'est, on n'aurait pas pensé.
C'est un esprit vois, original.
Voilà. Donc... Desso Costalani, voilà, il est né en 1885 dans une ancienne province de l'Empire austro-hongrois qui se trouve être actuellement la Serbie. Très tôt, il se consacre au journalisme et va devenir l'un des principaux rédacteurs de la prestigieuse revue Noui Gat. Travailleur infatigable, il multiplie les activités. Il va collaborer à la plupart des journaux nationaux, traduit de grands poètes et romanciers étrangers, prend la présidence du Pen Club hongrois. Je crois que tu avais un petit mot à nous dire.
Oui, je me suis demandé ce que c'était que le Pen Club hongrois, moi. Alors, le Pen Club international, c'est une association d'écrivains fondée en 1921 qui existe toujours. Ça veut dire, c'est un acronyme qui veut dire Pen, poète, essayiste, noveliste en anglais. Okay. Elle a pour but de rassembler des écrivains de tout pays attachés aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles la création devient impossible. Et cette association, je venais de le dire, est toujours en action dans de nombreux pays, dont la France, et elle est agréée par l'UNESCO. Bah, je ne connaissais pas du tout cette association qui a son intérêt, très certainement.
Donc, il a publié de nombreuses nouvelles, mais il publie aussi 4 romans, donc Néron, le poète sanglant, Alouette, le cerf-volant d'or et Anna la douce, qui va être traduit dans de nombreux pays. Donc je vous propose d'écouter tout de suite une autre nouvelle. Alors celle-ci, elle est un peu plus courte et elle s'appelle « Le pharmacien et lui ».
C'était une chaude soirée de printemps. Esti se tenait devant la vitrine d'une pharmacie de banlieue. Une âpre tristesse l'assaillait, tant la vitrine était pauvre à pleurer. Son âme maladive en était envoûtée au point qu'il est resté longtemps sans pouvoir bouger de là. En banlieue, ce qu'on vend le plus souvent dans les librairies, ce sont des cahiers, des gommes, des plumes, et dans les pharmacies, des brosses à dents, des blaireaux, des crèmes pour le visage. On y trouve un amoncellement de produits de beauté, comme si ce dont souffrait vraiment l'humanité, ce n'était pas la maladie, ce n'était pas du tout les maux innombrables, mais la laideur. Cette pharmacie, avec ses réclames s'allumant et s'éteignant seconde par seconde, proposait deux articles, deux produits sans doute préparés par le pharmacien lui-même. L'un des panneaux lumineux répétait sans répit « Cercès arrête la toux, même la plus tenace ». Quant à l'autre, il hurlait dans l'obscurité « Contre toutes les transpirations, mains, pieds, aisselle, poudre, aphrodite ». Des clients, il ne s'en présentait aucun. À l'intérieur de la pharmacie, tout ramolli, l'air démoralisé, était assis un petit homme, à l'aspect modeste, aux vêtements gris, à la chevelure grise. Il était aussi accablé qu'un suicidaire à l'instant de commettre son acte. Pris de pitié, Esti est entré. « Pardon, a-t-il bredouillé en jetant un regard circulaire autour de lui. Je ne sais pas, est-ce que je pourrais trouver ici quelque chose contre la toux ?»«
mais bien sûr, s'il vous plaît !»
Seulement voilà... L'a interrompu Esti en levant l'index, « Cette toux que j'ai ne date pas d'aujourd'hui. J'ai attrapé l'an dernier un gros rhume. Et depuis, quoi que je fasse, ça ne veut pas s'arrêter. C'est une toux maligne. Comment dire ? persistante. Il cherchait le mot juste. Il a fini par trouver « tenace ».«
Xerxès !»
a dit le pharmacien.
« Xerxès !»
Puis, il a bondi vers une étagère et l'instant d'après, elle tendait sous le nez d'Esti une jolie boîte contenant la poudre miracle. « Et ça fait passer la toux ?»«
Ah, même la plus tenace !»
a répondu du tac au tac le pharmacien, ce que proclamait pareillement dehors le panneau lumineux.
« La petite boîte ou la grande ?»«
Peut-être la grande. »
« Vous ne désirez pas autre chose ?»
s'est enquis le pharmacien en enveloppant la marchandise dans un papier rose. « Non, » a répondu Esti en brisant là, car dans l'art de jouer de telles scènes, il avait une immense pratique. « Merci !» Il a payé et s'est dirigé vers la sortie. Il met la main sur la poignée. À cet instant, il s'arrête net et semblait hésiter. Il se retourne. Le pharmacien vient vers lui.
« Puis-je vous servir encore quelque chose ?»
C'est-à-dire, a-t-il balbutié. Puis il s'est tu... « Mes paumes de main. »«
Oui, oui !»
a dit le pharmacien aussi vite.
« Aphrodite, s'il vous plaît, Aphrodite !»«
Et c'est sûr que c'est efficace ?»«
Je m'en porte garant. »«
Mais j'aurai encore... »«
Pour les pieds aussi !»
a dit le pharmacien confidentiellement en baissant la voix.
« Pour les pieds aussi !»
a dit le pharmacien confidentiellement en baissant la voix.
« Pour eux aussi !»
La tension dramatique était maintenant à son comble. Esti jouait celui qui n'est pas capable encore de se décider, pas capable d'acheter, parce qu'il est en proie au doute, son secret de famille étant si sombre et si fatal que jamais jusqu'ici il ne l'a avoué à personne. Le pharmacien lui est venu en aide. Il lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Esti, comme brisé, a opiné de la tête avec humilité en signe d'aveu. Il a fait envelopper également ce produit. Dehors, dans la rue, il s'est arrêté devant la vitrine. Pas pour la regarder cette fois, mais pour observer le pharmacien. Celui-ci était comme galvanisé, d'un seul coup, d'avoir rencontré un pareil modèle d'humanité souffrante, unissant par miracle en lui tout ce dont il avait besoin, toutes les particularités souhaitables. Il marchait de long en large, d'un pas alerte. De nouveaux projets vraisemblablement traversaient de clarté son esprit. Il a allumé un cigare. En rentrant chez lui, à pas lents, Esti, sur le pont, sans se faire remarquer, a jeté les deux boîtes dans le Danube. Il pensait « J'ai prolongé sa vie au moins d'un mois, puisqu'aussi bien je ne saurais plus me consoler moi-même autant maintenant que j'en console d'autres. Il faut rendre à chacun sa foi dans la vie. J'avais un professeur qui m'exhortait à ne pas laisser passer une seule journée sans avoir fait quelque chose de bien. » Selon son expression favorite, l'homme de bien est seul à dormir tranquille. Eh bien, allons voir si je pourrais aujourd'hui dormir sans somnifère.
Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'empathie.
Oui, franchement, pour... charitable. Hein. Prêt à acheter des médicaments
voilà,
pour faire plaisir. Ça, c'est vraiment c'est sympathique.
Alors, Dezzo Costagnani, il était aussi très connu pour sa poésie. Et donc, il va publier de nombreux recueils de poésie. Et c'est d'ailleurs en 1901 qu'il va publier son premier poème dans le journal de Budapest. Et donc, Philippe, je crois que tu avais...
Oui, j'ai relevé, un petit poème intitulé « Monologue ».
Voilà, en direct.
En direct. « J'ai aimé la vie, celle qui palpite, celle qui court, qui vole au rythme du sang. Et j'ai fait collecte de cœurs, de chères têtes languissantes, de mains bénies aux veines bleues de bons vieillards, Dieu d'enfant enchanteur aux cils drus. Maintenant, naturellement, je vocifère en battant furieusement de mes mains vides. Qu'ai-je fait, collectionneur dément, homme d'affaires malencontreux, raté, buteur ambitieux, qu'ai-je fait? Que n'ai-je fait collecte de pierres sans cœur et rudes, entassées des minerais de fer grossiers? Tous, maintenant, resteraient là, à veiller ma vie diminuante, d'une grimace froide, comme son or épie un avare. Mais j'ai perdu la raison pour ce qui se perd. Mais j'ai adoré tout ce qui tombe en morceaux, qui se gâte plus vite que les framboises ou les poissons. Bon, c'est un peu mélancolique, on est dans les regrets. Hein. Bon, je pense qu'il était, c'est quand il était, tu vas en parler tout à l'heure Mireille, c'est quand il était malade et hospitalisé qu'il a écrit ce monologue,
ce poème,
à la fin de sa vie.
Donc en 1903, on va donc revenir un peu en arrière, hein, et il, à 18 ans, il va s'inscrire à la faculté de lettres de l'Université de Budapest et commence les études de philologie hongroise et allemande. En 1904, il va s'inscrire à l'Université de Vienne et suit les cours de philosophie de Hegel, par exemple, et de littérature de Schiller. Donc quand même
Des pontes.
Voilà. Hein. Il rentre au pays en 1905, mais il va interrompre ses études pour devenir journaliste. Alors, ses articles sont publiés dans le journal Zeitgeld et ses environs, et les nouvelles de Baxka. Voilà, je vais y
arriver. Pas facile.
Surtout qu'on est dyslexique. Alors, en 1906, le journal de Budapest, là, c'est plus facile à dire, lui propose de se joindre à la rédaction pour remplacer Endre Hadi, qui est correspondant du journal à Paris. Et donc, ses poèmes, traductions et critiques vont être régulièrement publiés dans la semaine. En 1908, il va devenir l'un des principaux rédacteurs de la prestigieuse revue Neue Gat, donc ça veut dire Occident, hein, après d'ailleurs avoir aidé à sa fondation. En 1913, il va épouser l'actrice Ilona Armos, qui publie des nouvelles dans la revue, toujours la même revue, là, Neue Gat, sous le pseudonyme de Ilona Gorog.
Oui, Neue Gat, hein, on peut préciser que c'était une revue littéraire hongroise qui était d'esprit moderniste et progressiste, un peu en opposition au régime en place. Hein. Ah, il se positionnait comme ça, hein, Kostolany. Hein.
Oui.
Voilà,
oui,
c'était, il y avait des gros contrastes politiques en Hongrie.
Comme aujourd'hui.
Oui.
Donc, je vous propose une petite musique, là, hein, pour...
Allez.
Pour changer un petit peu. Alors, je vous ai trouvé un petit air, donc ça s'appelle « La danse du prince de Transylvanie ». Et écrite par Arani Zoltan.
Très bien.
Si ça veut bien démarrer. Non, ça veut pas. Ah.
Thank you.
Entre autres chapeaux, Esty avait un melon noir d'une rigidité à toute épreuve. Ce chapeau, il le mettait habituellement quand il s'en allait courir en banlieue de sombres aventures et qu'il ne voulait pas être reconnu. L'austère et large bord donnait aux traits de son visage une unité et de la dureté à son profil. Il portait ce chapeau également ce matin-là, matin d'hiver gris et plein de vent. Au coin d'une rue, alors qu'il se hâtait de traverser pour gagner le trottoir d'en face, un coup de vent fait tomber son chapeau par terre juste à ses pieds. Il se baisse pour le reprendre. À cet instant, le vent le soulève, puis le fait rebondir avec un bruit sec, d'abord à droite, ensuite à gauche. Esty, à perdre haleine, court après lui. Le chapeau se met à rouler, une rafale de vent l'entraîne, il roule jusqu'au milieu de la chaussée. Là, il s'arrête. D'un pas lent et posé, Esty s'est dirigé vers le chapeau. Mais, parvenu au milieu de la chaussée, il allait pour le ramasser quand une voiture arrive sur lui à une vitesse diabolique, dans une tempête de coups de klaxon. Il n'a eu que le temps de faire un saut de côté. Sur le trottoir, des passants criaient.
« Pour lui, c'est fini,
fini,
fini !»
Il l'a écrasé.
Et comment ?
Esty, en entendant ces clameurs confuses, s'est tâté des pieds à la tête avec frayeur, puis, ayant constaté qu'il n'avait aucun mal, en toute hâte, il a rejoint ce groupe de badauds curieux qui s'était formé sur le trottoir, comme il s'en forme toujours instantanément quand il y a un accident mortel. Les gens souriaient en montrant du doigt un même point. Ils ont accueilli Esty avec intérêt et respect, et quand leur regard s'est levé sur lui, leur sourire s'est éteint, et sur leur visage est apparue une certaine compassion. Car le proche parent du chapeau, c'était tout de même lui. Son chapeau gisait au milieu de la chaussée, les roues de la voiture en passant sur lui l'avaient horriblement aplati, compressé, laminé, on aurait dit un petit chien noir gisant écrasé dans la poussière de la route. Il n'en restait rien qu'une tache sombre. Il a attendu que la circulation diminue et, profitant d'un armistice entre les véhicules, il est allé près de lui. « Il vit peut-être encore », a-t-il pensé. Mais il ne vivait plus. Le chapeau était absolument plat, sans vie et sans âme. Il avait dû mourir sur le coup. Esty s'est souvenu qu'il avait même lâché un « pouc ». C'est à cet instant-là que son âme avait pris son envol. Son bord, en outre, était cassé, sa doublure et son cuir intérieur sortaient. Il avait succombé à de graves lésions internes. Esty, un long moment, est resté debout devant lui, tête nue, comme devant un mort. Puis avec cette légèreté qui nous fait passer par-dessus les petites comme les grandes tragédies, il est entré chez le chapelier qui se trouvait en face. Il s'est acheté un chapeau brun en poil de lapin. Esty est ressorti. Son chapeau gisait toujours là, cadavre sans sépulture. Mais il n'était plus le centre d'intérêt. Déjà ne l'entourait plus que l'indifférence et l'oubli. Des voitures passaient en trombe à côté de lui et même sur lui. Esty restait pensif, son nouveau chapeau sur la tête, comme accusé par lui d'infidélité. Le chapeau, à vrai dire, est la partie du vêtement la plus noble. Il couvre notre crâne avec sa forme bombée, il en est une imitation. Il nous est comme un crâne supplémentaire, rempli lui aussi par la flamme et par la fumée de notre cerveau. Le chapeau d'Esty, deux années durant, lui avait servi dans les circonstances les plus diverses, pour les rendez-vous comme pour les enterrements. Plus d'un soir, lui, Esty, s'était diverti dans la salle de spectacle et pendant ce temps, le chapeau l'attendait au vestiaire du théâtre, avec patience, avec résignation, plusieurs heures d'affilée, sans que jamais l'idée lui soit venue de prendre la fuite. Esty avait le cœur serré. Il est rentré chez le chapelier. « Je désirerais un ruban noir. »«
Avec ce chapeau, mais ça n'ira pas. »
a expliqué le vendeur en levant les yeux sur lui.
Ou porteriez-vous le deuil de quelqu'un ?
Oui, a répondu Esti avec résolution. Dehors, il a levé son chapeau enrubanné de deuil devant son autre chapeau mort prématurément et sinistrement. Il a porté le deuil 6 semaines, comme pour tous les parents éloignés.
Ça, c'est vraiment de l'empathie, même envers le pharmacien, mais aussi envers le chapeau.
Un joli cas d'anthropomorphisme.
Le chapeau est un ami.
Alors peut-être tu peux nous parler un peu de ce personnage de Esti.
Oui, ce fameux Cornel Esti, c'est un petit peu le double de Costolani. Tout comme lui, son personnage vit plus ou moins seul à Budapest. Il s'abrite donc derrière ce personnage de Cornel Esti, sous le masque duquel il peut répondre aux critiques formulées contre lui dans le pays. Parce qu'il ne faisait pas l'unanimité, Costolani. Costolani a écrit une quarantaine de nouvelles entre 1925 et 1935, dont l'unité est justement due à ce personnage principal. Qui est Cornel Esti ? Tantôt héros dans une nouvelle, tantôt narrateur dans telle autre, et parfois même les deux à la fois. C'est un octambule qui fréquente les cafés, un être un peu énigmatique et contradictoire, et c'est un solitaire de passage, sans attache. Alors d'ailleurs, l'épouse de Costolani écrivit dans ses propres mémoires « Cornel Esti est son second moi, le double goguenard et sans contrainte de son moi sentimental et bourgeois, dit tout haut et accomplit tout ce qu'il aurait, lui, aimé faire. » Bah oui. Fin d'extrait de citation. Si quelqu'un découvre comme Esti que toute conviction, toute culture, toute valeur a sa raison d'être, alors il ne peut être comme Esti que fondamentalement tolérant. La tolérance, la compréhension résignée et la compassion pour chaque être humain, voilà sans doute le visage le plus secret d'Esti, le masque le plus vrai aussi de Costolani. Donc, ces propos, je les ai tirés d'un extrait de la postface du recueil de nouvelles un traducteur kleptomane dont nous vous avons lu des extraits. Et ils sont de Adam Peter, le traducteur de Costolani. C'est vrai que c'est bien dit à propos d'Esti, j'ai résumé, mais c'est probablement, il fait vivre son personnage comme il aurait aimé vivre.
Faire certaines choses.
J'ai lu qu'on le comparait un peu à Don Quichotte.
Ah oui, tu vois, oui. Ah oui, un personnage un peu qui nous surprend en tout cas.
Fantasque, ouais, un peu fantasque, oui. Alors en 1918, Costolani se joint aux écrivains et artistes qui saluent et soutiennent la République des Conseils de Hongrie, dite commune. Et on lui propose même de participer à la traduction du Capital. Après la chute de la Commune en 1919, il est chroniqueur de la colonne Pardon du journal La Nouvelle Génération. Il critique la République déchue et ses dirigeants par une plume au vitriol et devient vite la cible de vives attaques de tous les milieux de la droite et de la gauche. Parmi les articles anonymes du Pardon, il est difficile d'identifier les articles de Costolani. Plusieurs journalistes participent à leur rédaction.
Oui, ne signez pas probablement. Voilà.
En 1921, il va collaborer au quotidien libéral Le Quotidien Budapest, où il publiera jusqu'à sa mort des chroniques, des petits essais, des articles et des comptes rendus. Et entre 1922 et 1926 paraissent donc les 4 romans qu'on a cités plus haut, là, donc Néron, le poète sanglant, avec quand même une préface de Thomas Mann, Alouette et le cerf-volant d'or et Anna la douce, qui accroissent donc sa renommée puisqu'ils sont traduits et publiés dans de nombreux pays. Donc c'est un travailleur infatigable, il va collaborer à la plupart des journaux nationaux et traduit les œuvres des grands poètes et romanciers étrangers et prend aussi la présidence donc du Pen Club hongrois, dont Philippe vous a parlé tout à l'heure, à partir de 1930. Donc en 1931, il va le rendre visite à Thomas Mann, qu'il connaît depuis 1910, et sous la pression des conservateurs, il va démissionner du Pen Club hongrois. En 1933, il correspond également simultanément à la parution de son recueil de nouvelles le plus célèbre, donc celui...
Traducteur kleptomane.
Voilà, voilà. Et donc vous allez d'ailleurs entendre la dernière nouvelle mettant en scène Cornel Esti. Voilà. donc cette nouvelle qui s'intitule « La dernière lecture ».
Comme d'habitude, c'est au dernier moment qu'il a sauté dans le train. Il a cherché un compartiment vide et s'est débarrassé de ses bagages. Les roues sur les rails se sont ébranlées. C'était un sombre après-midi d'hiver. Tombant de sommeil, les yeux pleins de sang après toute une nuit blanche, il a regardé par la fenêtre. Il a vu un tableau en noir et blanc, un grand paysage avec des champs de neige et voletant au-dessus d'eux, des corneilles. Il a eu alors un immense bâillement, comme s'il avait voulu avaler le tout, puis il a abaissé le store afin de ne plus rien voir, et comme chaque fois qu'il avait derrière lui telle ou telle chose ou devant lui telle ou telle autre, il a allumé une cigarette. Mais maintenant, il avait à la fois derrière lui le départ et devant lui ce voyage. C'est pourquoi, à peine achevé la première cigarette, il en a allumé une deuxième. Il se rendait dans une ville de province pour y donner une lecture publique. « Cette lecture est ma combien, méditait-il, ma centième peut-être, si ce n'est même ma 150e depuis déjà 25 années. Ce que tantôt j'appelle corvée, tantôt nécessité, c'est là à dire vrai que ma vie trouve son sens, son accomplissement, son jour de fête. Tout ce qu'on entend par le mot gloire, et comme expérience de voyage, il n'y a rien non plus qui vaille une incursion dans une ville inconnue. Il n'y a rien qui vaille autant que de voir les enfants à la tombée du jour rentrer de l'école en trottinant par les rues enneigées et de s'introduire comme un voleur dans leur communauté fraternelle que de humer au passage les odeurs d'un petit restaurant, que de se promener tout au long de la rue principale et puis de courir à l'hôtel se préparer, et le lendemain de cette brève ivresse et de ce haut le cœur, de ces applaudissements et de ce champagne, de repartir plus loin, comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Ah, combien de souvenirs de ce genre j'ai gardé de ces lectures publiques. Je me souviens de ces déjeuners du dimanche, c'était le samedi que d'ordinaire elles avaient lieu, mais le dimanche on me retenait encore. Je me souviens des reflets dorés de ces pot-au-feu, où baignaient toutes gonflées les poches de pâtes farcies, de ce rouge éclatant presque héroïque, des sauces tomates et de ces gratte-ciels qu'étaient les pièces montées. Je me souviens de ces amis fossilisés, de ces anciens condisciples à l'existence ratée qui, dès le matin, le lendemain de ma lecture, alors que je me prélassais dans mon lit encore à moitié endormi, apparaissaient soudain au fond de ma chambre avec sur les lèvres un sourire qui était un appel au souvenir et qui tout à la fois me demandait pardon et m'accusait de ce fait que, quoique oubliés et quoique sans nom, eux étaient encore de ce monde. Je me souviens de cette famille plus qu'affable, et de cette chambre où tout avait été fait pour que l'hôte de passage que j'étais se sente à l'aise, et comme chez lui, mais où jamais je ne me suis senti ni à l'aise, ni comme chez moi. Ou même une fois seul, je ne cessais de faire des sourires et des révérences, comme s'ils avaient été encore présents, ces maîtres de maison plus qu'aimables, qui, à travers même la cloison, étaient aux aguets du moindre de mes gestes, et voulais-je me laver qu'ils entraient, en personne me pomper l'eau dans ma cuvette d'un soir. Je me souviens de ces admirateurs qui surgissaient de derrière une colonne d'affichage et se ruaient sur moi pour demander un autographe, et de ces écrivains amateurs qui me présentaient leurs manuscrits comme on présente au roi une requête d'importance vitale en l'enrubannant avec les guirlandes de roses, de la dévotion, ou en glissant une menace perfide comme un régicide son poignard. Je me souviens de ce café à Najivarad, c'était avant-guerre, où j'ai entendu de mes propres oreilles les garçons discuter pour savoir quel sonnet, le dimanche précédent, avait eu le plus l'accent même de la vie. Je me souviens de ces chères vieilles dames qui me soupçonnaient de dédain à l'égard du chef-d'œuvre qu'elles m'avaient cuisiné. Il est vrai aussi que ce n'était pas un plat budapestois, et qui s'étonnaient de ce que, d'une part, je n'en mangeais pas assez, et de ce que d'autre part, j'en mangeais tellement, moi, qui en tant que poète, aurais dû n'avoir que mépris pour des choses aussi prosaïques. Je me souviens comment on me traînait pour me faire visiter ici un orphelinat, ou bien un abattoir, là une pinacothèque, ou bien un hôpital. Et comme partout, positif mais avec retenue, je portais un jugement d'expert, alors que, hormis l'écriture, je ne m'y connais en rien au monde. Et je me souviens enfin de ces femmes et de ces jeunes filles, qui ont avec elle apporté tant de fois la féerie du hasard, son caprice et sa fatalité. Tout n'était qu'un ensemble inextricable de ces tournées qui ne sont jamais les mêmes et qui cependant se répètent toujours. Mon Dieu, que c'était beau, a-t-il soupiré. Il serait si bon de vivre encore un peu. Il n'était pas loin de 8 heures. Estie, d'un coup sec, a relevé le store. Dehors, la plaine de neige était devenue aussi noire que les corneilles. Il y avait partout comme des pelotes de brouillard, denses, impénétrables. « La lecture est à 9 heures, a-t-il pensé. J'aurai tout juste le temps de me changer à l'hôtel. » Il s'était tiré de la poche supérieure de son gilet. Il a sorti une fiole brune. Il a bu et ses yeux aussitôt se sont mis à briller. Il a allumé une nouvelle cigarette. Quelques minutes plus tard, l'obscurité a été transpercée par l'éclat rayonnant de coupoles illuminées. Des châteaux d'eau et des cheminées d'usine lui ont comme fait signe. Puis le contrôleur est venu lui annoncer qu'il était arrivé. Il a confié ses bagages, sauté à terre dans l'entrevoie. Un groupe confus venait vers lui. C'était, tout empressé, le président de l'association culturelle avec sa jeune femme et un jeune homme inconnu, pâle, à l'air taciturne. Comme il est de coutume en pareille circonstance, on lui a demandé s'il avait bien voyagé, s'il n'était pas trop fatigué. Il a bredouillé une réponse, on l'a fait monter dans une voiture. On a dit que la soirée avait suscité dans toute la ville un immense intérêt, même si on n'avait pas encore vendu tous les billets. Et on l'a conduit à l'hôtel, à l'Aigle d'Or, dont l'annexe toute proche servait justement de salle de séance. Il pourrait donc s'y rendre à pied. Le pâle jeune homme inconnu, à l'air taciturne, qui était l'organisateur de la soirée, l'a accompagné avec une extrême discrétion, jusque dans le hall de l'hôtel, a attendu qu'il entre dans l'ascenseur et s'est retiré. Il y avait un certain temps déjà que l'ascenseur montait en trépidant, quand Estie soudain a réalisé que des choses pouvaient encore le surprendre. Jamais de sa vie il ne s'était encore trouvé dans un hôtel de province aussi étrange. L'ascenseur, depuis plusieurs minutes, allait à fond de train, de plus en plus haut. « Où allons-nous ? » a-t-il demandé au garçon liftier.
« Et là-haut ! »
a répondu le garçon en pointant son index vers le plafond. « À quel étage ?» Le garçon n'a pas répondu, car après encore un ou deux chaos, l'ascenseur, avec un grand bruit, s'est mobilisé. S'emparant des valises, le garçon, sans un mot, a pris le long couloir étroit où des tapis de laine grise couraient entre deux portes toutes semblables, toutes peintes en gris. Il a ouvert l'une d'elles.
« Je vous en prie !»«
C'est ma chambre ?» a demandé Estie. Et dans l'air desséché par le chauffage central, il est allé au milieu de la pièce, il a jeté un coup d'œil autour de lui. Il a vu un grand miroir, le lit d'un côté, de l'autre le canapé. Il a opiné de la tête et renvoyé le garçon. Il l'a regardé par la fenêtre. Là-bas, tout au fond, là-bas, au flanc des montagnes, reposaient dispersées les maisonnettes d'une petite ville, aux fenêtres brillant de la lumière des lampes, lumière jaune, lumière chaude, comme sur l'inoubliable décor du théâtre de son enfance. Il a longuement tout contemplé avec émerveillement. Au-dessus d'une tour de pierre trapue, dans la neige qui tombait, tournoyait des cormeilles. « Dépêchons-nous » a-t-il dit pour s'encourager, et il a commencé à se préparer. La lame de son rasoir a parcouru en crissant son visage. Il s'est lavé à l'eau très chaude. Puis, hors de la valise, une chose après l'autre, ont repris leur envol, la chemise, le gilet, la cravate, le tout blanc comme la neige dehors. Ensuite, le frac, le pantalon, les chaussures vernies, le tout noir, comme dehors les corneilles. Il sifflotait une aria de Bach en réfléchissant à ce qu'il allait donner ce soir sur l'estrade. À tout hasard, il a fourré dans sa poche quelques manuscrits récents. Il s'est peigné devant le miroir en se penchant d'un côté et de l'autre. Il a été heureux de constater qu'il était de haute taille et pas encore tout à fait vieux. « Allons-y » s'est-il ordonné à lui-même et il est sorti dans le couloir. C'était le long couloir étroit dans lequel il était arrivé tout à l'heure avec le garçon. C'était le tapis de laine grise et les portes semblables peintes en gris. Mais c'est seulement alors qu'il s'est rendu compte à quel point ce couloir était étroit et long. Tout au bout, là-bas, un miroir brillait, reflétant vaguement le long couloir étroit avec son tapis de laine grise et sa suite infinie de portes toutes semblables, toutes peintes en gris. Il voulait arriver le plus tôt possible à son estrade. Il s'est donc dirigé vers le miroir dans l'espoir que là-bas, il trouverait sans doute une sortie ou un escalier. Mais il s'était trompé. Parvenu à l'extrémité, il a constaté que ce qu'il avait vu dans le miroir, ce n'était pas une image, c'était la réalité même. Il n'en finissait plus ce couloir. « Mégalomanie provinciale », a-t-il marmonné en faisant une moue. Il a pressé le pas, l'air contrarié. « Il semblerait que je sois de nouveau perdu », a-t-il dit avec un sourire, mais gêné à un garçon. Celui-ci, comme indication, lui a dit d'aller à rebours en sens contraire. Et là, alors tout au loin, un miroir également est apparu. Mais une fois au bout, ce n'était pas non plus un miroir, c'était tout simplement le couloir même, avec ses portes et ses chambres innombrables. Il errait depuis 5 ou 6 minutes. Quand un autre garçon l'a dirigé vers la droite, puis un troisième à nouveau vers la gauche. Il était alors 9h30 passées, et même depuis longtemps. Que définitivement, il arriverait trop tard pour la séance, l'exaspérer. Et, à bout de patience, hors de lui, il s'est mis à courir ça et là, en bas, en haut, d'un étage à l'autre, en ne trouvant partout que le désespérant labyrinthe de l'uniformité. Il a fini par cogner un coup de poing sur la cage en fer de l'ascenseur. L'ascenseur s'est arrêté. Le garçon lui a ouvert la porte. Il est entré. Et de nouveau, à une vitesse vertigineuse, ça a été la ruée vers le haut, puis vers le bas, de longues minutes durant, de longues minutes interminables. Esti, trépignant, a hurlé qu'il voulait sortir. Ils étaient arrivés à ce même long couloir étroit d'où ils étaient partis. Esti a trouvé la porte de la chambre ouverte, à l'intérieur le désordre qu'il avait fait en s'habillant, dans la cuvette, son rasoir plein de mousse de savon. Il est allé devant le miroir. Il a regardé attentivement son visage blanc, son front en sueur. Il a su ce qui allait advenir, mais c'était un objet d'intérêt pour lui plutôt que d'horreur. Que tout ne fût que ça l'étonnait. Le garçon avait couru chercher un médecin. Esti a sorti de sa poche la fiole brume et de nouveau, il a bu.
« Pourquoi faites-vous usage de ça ?»
lui a demandé le médecin d'un ton réprobateur et il lui a enlevé la fiole des mains. « Pourquoi ?» a répondu Esti. « Parce que sur Terre, les enfants meurent. » Le médecin a pris note qu'il délirait et que ses yeux louchaient. Il tâtait pour prendre son pouls, mais il ne sentait rien. Il a voulu le faire asseoir sur une chaise. Esti, alors, s'est effondré de tout son long par terre. Il est tombé devant le miroir, les yeux exorbités. À cet instant, le jeune homme pâle est entré en courant. Hors d'haleine, il réclamait le maître afin de le conduire à l'estrade. Il a découvert, frappé de stupeur, ce qui s'était passé. « C'est curieux, a-t-il remarqué. Même maintenant, il se regarde dans le miroir. »«
Oui !»
a fait le médecin en hochant la tête.
« Cette sorte d'artiste est comme ça. Dire pourtant qu'il ne vit même plus. »
On se demande ce que c'est que ce produit qu'il y a dans la fiole.
C'est pas du sirop typhon.
Voilà, mort d'un artiste. Donc... Les symptômes précoces hein, de sa maladie, donc il a un cancer donc du larynx, non, c'est ça ?
Apparemment, oui. Ouais,
se manifeste en 1933. Il subit donc plusieurs interventions chirurgicales. Il va se soumettre à un traitement au radium à Stockholm. Et en 1935, il va séjourner au Visegrad dans une maison de repos et de convalescence qui est réservée aux journalistes. Et là, il va s'éprendre d'une jeune femme mariée, Maria Radakovic. Les poèmes, une prière courte et dévotion en septembre vont être inspirés par cet amour tardif. Donc à la suite d'une laryngectomie, il va perdre sa voix en août 1936. Il écrit donc sur les feuilles de papier pour pouvoir communiquer avec son entourage. Et il meurt à l'hôpital Saint-Jean de Budapest le 3 novembre 1936, alors qu'il a juste 51 ans, voilà. Alors, le Louis Gatt lui rend hommage dans un numéro spécial de décembre où Babitz réhabilite son ami de jeunesse. Alors, Costalani, il a également été un remarquable traducteur hein, de l'œuvre de Maupassant, Molière, Calderon, Rostand, Byron, Wiseman ou Wilde, notamment, ainsi que de haïku japonais et de poésie chinoise.
Oui, ça veut dire qu'il maîtrisait aussi un minimum les langues orientales, hein. C'est étonnant.
Oui, hein. Donc incroyable. Donc il parlait français, hein, puisqu'il a traduit Maupassant et Molière.
Anglais.
Anglais, hein, pour Byron, Oscar Wilde, etc. Donc le japonais, le chinois, donc quand même multilingue.
Très fort. Hein,
très fort, très fort. Tu voulais ajouter quelques petites choses hein?
J'avais relevé un petit extrait de son roman dont tu as parlé, Le cerf-volant, que voilà. « Avant la découverte du ballon-sonde, c'est avec un cerf-volant que l'on mesurait la vitesse du vent. la température de la couche supérieure de l'atmosphère. Le cerf-volant est un divertissement fort instructif. Vous voyez, conclut Novak, le jeu, c'est sérieux. Il symbolise toujours la vie. Voilà, je trouve que c'est un bel extrait et ça annonce presque la prochaine émission. Hein, en parlant de voilà, mesurer la vitesse du vent.
Prochaine émission, on vous parlera de tempête.
Voilà. Voilà.
Donc, alors il y a un autre recueil de nouvelles qui ont été traduites en français qui s'appelle Drame au vestiaire. Voilà. Donc, qui a été traduit en 1993. Voilà, donc vous pouvez trouver aussi.
Voilà. Livre.
Si ça vous intéresse de lire.
Oui, il y a d'autres nouvelles bien amusantes dans le recueil.
Dans le recueil de nouvelles, voilà.
Qu'on a utilisé.
Donc, je sais pas à quelle heure il est. On a le temps de vous passer une petite chanson.
Allez, une petite chanson.
Voilà, de partir. Allez, hop. Ah non, oui, mais je ne l'ai pas la chanson, en fait, parce que elle est... Mais j'ai un truc de cymbalum, si vous voulez, pour
terminer. Oui, tu ne nous fais pas chanter sous la torture.
Voilà. Hein. Non, voilà, c'est ça, parce que l'autre, je ne sais pas, ça ne passe pas. Voilà,
ça ne te dérangerait pas.
Ça ne me dérangerait pas, mais quand même, il ne faut pas être trop présent. Voilà, c'est très présent. Hein, on est en train de parler de cet instrument des pays de l'Est, le cymbalum, avec donc cet instrument avec les cordes à plat sur lesquelles on frappe les cordes, un peu comme dans le mécanisme du piano, avec des sortes de petites maillotches, qui demandent une grande dextérité. On était en train de se dire que c'était très, très présent comme instrument.
Voilà, donc c'est ce qui est typiquement hongrois, hein, comme puis dans les pays de l'Est.
Les pays de l'Est.
Voilà. Eh bien, j'espère que voilà ces petites nouvelles avec Cornel Esti vous auront plu et vous donnera l'envie de d'en lire d'autres.
De creuser.
Voilà.
Bah, c'est très actuel comme écriture, hein, je trouve.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai.
Oui, ça reste.
Ça n'a pas pris de ride.
C'est nouveau.
Voilà.
Donc, eh bien, bon week-end à tous. Et puis, donc, dans la prochaine émission, on vous parlera de tempête.
Oui.
Tempête de sable.
Sortez
de
les cirés, les casquettes, voilà. Les bonnets.
Donc, à bientôt.
Une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.